en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Amine Maalouf, journaliste, romancier, essayiste, librettiste, l'auteur entre autres de « Les croisades vues par les Arabes », « Léon l'Africain », « Le rocher de Tanyos », prix Goncourt, « Les identités meurtrières »,« Origine » et « Le dérèglement du monde ». Amine Maalouf, passeur d'humanisme à la confluence du monde occidental et du monde arabe, avocat infatigable du dialogue entre les civilisations et de l'épanouissement de leur complémentarité. Amine Maalouf, qui a été élu à l'Académie française le 23 juin 2011, au fauteuil numéro 29, succédant à Claude Lévi-Strauss, et qui sera reçu sous la coupole le 14 juin prochain. Amine Maalouf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Amine Maalouf, le moment essentiel ?
Je crois que le moment essentiel se situe tout à la fin de 1983. J'ai un souvenir assez précis, mais je ne saurais pas fixer la date. J'étais en train d'écrire les toutes premières pages de mon premier roman et j'ai éprouvé quelque chose de différent. Moi, j'écris depuis toujours, puisque j'ai commencé comme journaliste à 20 ans, 21 ans.
Politique internationale, grand reporter.
Voilà, j'écrivais des articles quotidiens quelquefois. J'avais déjà écrit un premier livre qui était « Les croisades vues par les Arabes ». Et je commençais à écrire mon premier roman. Et dans ces tout premiers paragraphes même, j'ai ressenti une sorte d'euphorie spéciale. Et je me suis dit instantanément, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de ma vie, écrire des romans.
Et c'est pour ça que l'année suivante, vous avez pratiquement abandonné le journalisme, c'est ça ?
Exactement.
84. Hein.
L'année suivante, j'ai pris du chant. J'ai arrêté toute activité régulière au journal. Je faisais quelquefois des articles encore, mais je me suis consacré à l'écriture et depuis, j'écris.
Et ce roman, c'était Léon l'Africain déjà ?
C'était Léon l'Africain, absolument.
Alors, quand on regarde votre itinéraire, non, vous n'avez pas reçu une formation littéraire, vous avez reçu une formation de sociologie, de sciences économiques. Comme vous le disiez, vous avez commencé dans le journalisme, vous avez été reporter, et même reporter chaud, parce que sur le terrain, en 1974, vous couvriez la fin du régime en Éthiopie. Mais l'année suivante, c'est la guerre civile au Liban. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer ce qu'aurait été votre vie s'il n'y avait pas eu cette guerre civile ? Aurait-elle été très différente ?
Je pense que ma vie aurait été très différente. D'abord, je ne suis pas quelqu'un qui envisageait réellement d'émigrer. Je dois dire même que je regardais avec méfiance les gens qui avaient envie d'émigrer.
Alors que vous avez émigré en 76, hein, c'est ça ?
Voilà, je dirais un an plus tôt, je n'envisageais pas du tout de migrer. Et certainement pas de passer ma vie en dehors du pays. Et j'envisageais de passer peut-être une année en France, peut-être sur le campus d'une université américaine, mais juste pour avoir une expérience un peu différente. Mais j'étais persuadé que je passerais ma vie au Liban. Et la guerre, évidemment, a changé tout cela. Du jour au lendemain, j'ai compris que je devais partir.
Évidemment, le départ était un déchirement.
Il était à la fois un déchirement et un soulagement. Parce que au moment où j'ai décidé de partir, j'avais compris que je n'avais plus d'avenir sur place, que la guerre allait être longue, que je n'avais aucune envie que mes enfants grandissent dans cette atmosphère-là. Et donc, le fait de partir était évidemment un déchirement, mais en même temps, la promesse de quelque chose d'autre.
Alors, en 86, vous publiez « Léon l'Africain », roman qui vous fait connaître, je dirais, à l'échelle quasi-planétaire. Nous sommes tous ébahis par votre culture. On se demande comment se fait-il. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a le plus surpris les gens, qui a bousculé le plus l'image que nous avions, nous, des rapports, nous, occidentaux, des rapports entre l'Occident et l'Afrique, dans ce livre ? Pourquoi a-t-il posé tant de questions, ce livre ? En dehors du talent de l'écriture, hein, ça c'est...
Je crois que ma démarche, qui est venue très naturellement, était en réalité assez inhabituel. Je suis quelqu'un qui vivait au Liban, donc dans le monde arabe, qui était imprégné de cette culture, qui en même temps avait des liens très forts avec la France, puisque j'avais fait mes études dans une école française, avec des enseignants qui étaient souvent français,
lyonnais
en particulier.
Les jésuites,
tout à fait. Et donc, ma vision était toujours une vision double. Je me plaçais à la fois du côté du monde arabe du côté du sud et du côté du nord. C'était déjà le cas dans les croisades vues par les Arabes. Et quand j'ai commencé à travailler sur Léon l'Africain, mon idée était justement de raconter la chute de Grenade de l'autre côté. Et c'est probablement cette vision du sud et en même temps qui prenne en compte la sensibilité du nord qui caractérise ma démarche et qui caractérise ma vie, puisque je suis entre les deux, en réalité, de naissance.
Nous y reviendrons. Quand je parlais de culture, il faut dire que vous aviez de qui tenir, parce que votre père, sur ce plan-là, c'était pas mal non plus.
Hein ? Mon père était journaliste, poète reconnu. J'ai même eu à étudier ses poèmes à l'école. Et je dois dire que j'ai toujours voulu suivre sa voie.
Il était peintre également, non ?
Il était peintre.
Oui.
Et j'ai été touché par le fait que le père de Lévi-Strauss, auquel je succède à l'Académie, était peintre, et touché également par le fait que son père est venu à une période difficile où la photographie commençait à concurrencer la peinture et où il n'arrivait plus véritablement à vivre de son art. Et je pense que mon père aurait voulu être peintre. Il a écrit, je ne dirais pas que c'était un pis-aller, mais ce n'était pas son premier choix. Je pense que s'il pouvait choisir, il aurait été peintre. Toutes ses références étaient à la peinture. Il m'a toujours parlé de Michel-Ange, de Raphaël, de Léonard. Et je crois que dans la société où il a grandi, c'était difficile de se consacrer à la peinture.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Amine Malouf, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre démarche ? Vous veniez de l'évoquer il y a un instant, mais pour le préciser.
Je crois que j'ai grandi dans un milieu où l'écriture était synonyme de travail. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un travaille quand il écrit ou qu'il enseigne. J'ai grandi dans un milieu où le travail n'avait pas d'autre signification. Je n'ai jamais pensé que je pourrais travailler dans un autre domaine que l'écriture ou l'enseignement. Pour l'enseignement, c'était un peu difficile parce que le milieu de mon père, de mes oncles et tantes, était un milieu anglophone. Moi, j'ai fait mes études chez les Français, donc j'étais un peu entre deux systèmes difficiles à concilier. En revanche, pour l'écriture, j'ai suivi depuis le début la voie que mon père avait suivie. J'ai toujours voulu être journaliste. Dès que j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à travailler. Il y a eu même une période où nous avons travaillé dans le même journal. Lui écrivait un éditorial en première page et moi j'écrivais un petit article en page 6 ou 8.
Vous avez d'ailleurs eu des responsabilités importantes. Hein. Vous avez été le patron rédactionnel de Jeune Afrique.
Plus tard. J'étais un des rédacteurs en chef.
Oui.
Je dirigeais une revue économique. Oui, c'était ma passion. Et j'ai beaucoup voyagé aussi en tant que journaliste. Pendant une période, j'avais envie de suivre les événements, de courir le monde. Je suis allé en Éthiopie, je suis allé au Vietnam au moment de la bataille de Saigon. J'avais envie
75,
de...
hein, début 75, c'est ça ?
Oui, mars-avril 75. J'avais véritablement envie de...
La bougeotte, quoi.
D'être là où se passaient les événements. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Mais quand on regarde votre itinéraire, il y a une chose qui est quand même frappante. Parce que si l'on se place sur le plan des lieux, vous êtes un homme très divers. Vous aviez un grand-père maternel qui était en Égypte, un père installé au Liban, une mère pour partie d'origine turque, vous-même très attaché à Istanbul. Alors, il y a cet aspect-là déjà, donc cet aspect de diversité, de confluence. Quand on regarde l'aspect religieux et quasi-philosophique, vous êtes d'une famille chrétienne dans le monde arabe, mais pas n'importe quelle famille chrétienne, puisque une famille convertie au protestantisme. Et quand on regarde, après ce que vous évoquiez, l'éducation, donc en particulier chez les jésuites, vous avez découvert les classiques occidentaux dans la langue arabe alors que vous étiez chez les jésuites. Donc vous êtes le symbole même de l'homme de la diversité. Vous l'avez vécu comme une force ou comme un poids, ça, dans votre vie ?
Les deux. Je crois que d'un côté, j'étais heureux d'avoir des appartenances multiples. Mon rapport avec les langues de la famille a toujours été un rapport très serein. C'est vrai qu'au début, jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, je lisais presque tout en arabe. Cela venait spontanément. C'était la langue commune de la famille paternelle et de la famille maternelle, puisque la famille paternelle était essentiellement de culture anglo-américaine et la famille maternelle de culture française. Et la langue commune était l'arabe. Et moi, j'ai toujours aimais la langue arabe, j'ai écrit en arabe. Et au début, j'ai découvert Mark Twain, Dickens, Alexandre Dumas en arabe.
Mark Twain en arabe?
Oui. Et je dirais jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à lire beaucoup plus en français et en anglais. Parce que la bibliothèque de mon père était surtout en anglais. Il y avait quelques auteurs français qui étaient là, très présents. Je ne dirais pas les œuvres complètes, mais beaucoup de leurs livres. Par exemple, Bergson. Mon père a une faiblesse en français, mais en même temps, pour certaines œuvres qu'il aimait, il faisait l'effort de lire en français. Sinon, pour l'essentiel, il lisait en anglais.
Mais lorsque vous parlez donc de cette expression à travers la langue, vous êtes également un librettiste d'opéra. Qu'est-ce que l'opéra vous apporte de plus que le roman ou l'essai ?
L'opéra est venu sur le tard, je dirais, et ce n'était pas ma propre initiative. Je n'aurais pas pensé, pour être sincère...
Ah oui, mais vous avez récidivé quand même.
Voilà. Je n'aurais pas pensé à écrire un livret d'opéra. Un jour, j'ai reçu une lettre de Gérard Mortier, qui était directeur du Festival de Salzbourg, me proposant d'écrire un livret d'opéra pour une compositrice finlandaise que je ne connaissais pas du tout. Et nous avons eu une réunion qui était fondatrice, je dirais, dans un restaurant à Paris, quelques mois plus tard, avec Gérard Mortier, avec Jean-Pierre Brossman, qui dirigeait le Châtelet à l'époque, avec Kaija Saariaho, compositrice finlandaise, avec Peter Sellars, metteur en scène américain. Et c'était le début d'une longue collaboration. J'ai écrit pour Kaija 4 livrets d'opéra. 2 ont été publiés en livre, 2 n'ont jamais été publiés en livre. Et c'était une expérience merveilleuse.
Qu'est-ce que ça vous apporte de plus ou de différent par rapport aux essais et aux romans ?
C'est une toute autre manière d'écrire.
Ah oui,
quelque part à mi-chemin entre la poésie et le théâtre. Et encore, ce n'est ni la poésie ni le théâtre, parce qu'il faut tout le temps avoir à l'esprit qu'il y a la musique qui va venir, qu'il faut laisser une place pour la musique, qu'il faut écrire des textes chantables. On ne peut pas utiliser n'importe quel mot, n'importe quelle formule. Il faut constamment avoir à l'esprit que ce texte va être passé par la musique, par les contraintes de la musique. C'est une belle expérience. On exprime des choses différemment. Moi, je viens aussi d'une famille où la musique était très importante. Je suis un peu le canard boiteux de la famille. J'ai 3 sœurs qui ont toutes étudié des instruments. Il y a 2 qui sont aujourd'hui pianistes, qui ont une école de piano. Ma mère a toujours joué le piano. Mon père était critique musical. Il y avait un programme à la radio pour l'appréciation de la musique classique. Moi, j'étais le vilain petit canard qui n'a pas réussi quand on l'a envoyé chez le professeur de piano. J'ai dû prendre quelques cours et après, on leur a expliqué que je n'étais pas très doué. Et là, je me rattrapais un peu en mettant un peu mon écriture au service de la musique.
Alors, dans ce que j'évoquais tout à l'heure concernant les religions, c'est cette particularité quand même assez exceptionnelle d'être un protestant au Liban. Est-ce qu'il y a un regard différent des protestants sur la réalité de ce monde par rapport aux catholiques ? Ou est-ce qu'on est d'abord chrétien ?
Dans ma famille, les religions étaient compliquées. La famille de ma mère est maronite. Et je dirais, même s'il y a eu un passage par la Turquie, par l'Égypte, ce sont pour l'essentiel des maronites, probablement d'ailleurs originaires partiellement du nord de la Syrie, avec un ancêtre qui venait du côté de Nantes. Mais ça, c'est une autre histoire. Du côté de mon père, il y avait les 2 traditions, grecque, catholique et protestante. Je sais à peu près à quel moment a commencé cette tradition presbytérienne. C'est mon arrière-grand-père, c'est-à-dire en fait le père de ma grand-mère maternelle.
Donc 19e siècle.
Oui, c'est quelqu'un qui est né en 1837, pour être précis, qui a rompu avec son père. Son père était prêtre catholique et lui a rompu avec son père, il est devenu pasteur presbytérien. Et il y a eu, pendant toute ma jeunesse, bien avant évidemment, mais moi, même dans ma jeunesse à moi, je me souviens des conflits qu'il y avait dans la famille paternelle entre l'aile protestante et l'aile catholique. Il y a des gens qui ne se sont jamais parlé pendant des dizaines d'années. Et ça ne s'est jamais complètement arrêté. L'arrivée dans ma famille, au sens étroit du terme, le foyer de mes parents, de ma mère justement, qui elle était catholique, a fait pencher la balance. Donc, dans notre famille, nous avons été élevés comme catholiques. Mais ma grand-mère était protestante, et beaucoup de gens autour de nous, de ma famille, étaient protestants. Et c'est curieux parce qu'au Liban, Vous savez qu'il y a des communautés différentes, il y a des appartenances communautaires. Mais dans ma famille, c'est différent. C'est-à-dire, ce ne sont pas des appartenances à caractère identitaire. Ce sont des croyances réelles. C'est-à-dire, on s'est affronté pour des raisons de dogme. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais on s'est affronté pour des raisons réellement religieuses. Alors que les affrontements dits et religieux dans cette partie du monde, c'est tout à fait autre chose.
Presque épidermique. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque part que tout ce que vous avez défendu ensuite sur la complémentarité des civilisations, c'est une façon de résoudre aussi ce dilemme familial des origines d'une division protestant, entre protestants, protestants catholiques. Il y a eu quelque chose de ça qui a pu jouer ?
Je dirais, ça a contribué, mais déjà le fait de naître au Liban dans une communauté très minoritaire, ce qui est mon cas, je dirais que c'est une blessure qui ne se referme jamais. Quand on est minoritaire, on le sent. Un jour, on le découvre.
On est l'autre, quoi.
On sent qu'on est étranger et qu'on sera étranger partout. Et cela, ça vous colle à la peau et je pense que ça détermine toutes sortes de choses que l'on fait dans la vie, y compris l'écriture.
Alors, nous allons y revenir sous une autre manière avec la troisième question, donc récurrente de notre série L'Essentiel. Votre regard sur l'évolution du monde aujourd'hui. Quelle est, Amin Malouf, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos ? Votre regard sur le monde ? Alors, il y a une part de jeu, bien sûr, faire sortir une seule idée. Mais qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur votre façon de percevoir le monde ? S'il y avait une chose que vous aimeriez...
Je dirais que si je devais résumer tous les problèmes qui m'apparaissent en un seul, je dirais que ce serait l'inadéquation entre l'évolution morale du monde et l'évolution matérielle. Je pense que le monde évolue très vite sur le plan matériel, sur le plan scientifique. Les richesses augmentent, les connaissances augmentent et en même temps, les mentalités ne suivent pas. Parfois, elles avancent, mais plus lentement, de manière plus erratique, avec des hauts, des bas, des rechutes. Et je dirais que de plus en plus, j'ai le sentiment qu'il y a une régression sur le plan moral.
Régression ?
Oui, je pense qu'il y a une régression. Elle est manifeste dans beaucoup de régions du monde. Dans le monde musulman, elle est manifeste. Il y a une régression par rapport au statut de la femme, par exemple. Dans le monde occidental, à mon avis, elle est manifeste moins, de manière moins apparente, mais quand même, je pense qu'il y a une régression dans la conscience sociale, qu'il y a une régression dans la liberté d'expression. Il y a une régression insidieuse. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus dire. Et je dirais que notre siècle, le 21e siècle, est un siècle de régression morale. Et je redoute qu'il le devienne de plus en plus.
De plus en plus. Donc, c'est une thèse que vous ayez défendue dans un livre qui a fait beaucoup de bruit en 2009, Le dérèglement du monde. Vous parliez donc de la crise morale dans les pays musulmans et vous parliez d'une crise dans le monde occidental d'un autre type, c'est-à-dire l'accaparement de la mondialisation avec le yo-yo concernant les valeurs morales, c'est-à-dire qu'on ajustait ça en fonction de ses intérêts. Et vous pensez, sur ce plan-là, par exemple, comment expliquez-vous que l'Occident, qui a créé quand même un certain nombre de valeurs, n'ait pas été capable de les transmettre et d'en faire une sorte de vademécum universel aujourd'hui, et qu'on soit dans cette espèce de régression dont vous parlez. Comment vous expliquez cela ?
Moi, je ne mettrai pas la faute sur l'Occident. Il y a une part de la faute qui retombe naturellement sur l'Occident parce qu'il est la civilisation dominante, mais je n'innocente pas les autres. Tout ce qui arrive dans le monde musulman n'est pas la faute de l'Occident. Il y a des problèmes qui sont liés à l'évolution dans le monde musulman, à certaines infirmités morales qui existent dans les civilisations du sud de la Méditerranée. L'Occident, je pense, a été, en règle générale, incapable de concilier son rôle de puissance dominante avec sa mission civilisatrice, entre guillemets. On ne peut pas à la fois dominer les gens et les civiliser. À un moment donné, il faut faire un choix. Soit on fait le choix du respect et de l'égalité, c'est-à-dire on veut véritablement que les autres soient des égaux et donc on leur transmet un certain nombre de choses et en même temps on respecte ce qui est différent en eux. Soit on essaie essentiellement de les conformer à ce que l'on est et de les maintenir dans la soumission.
Mais ça suppose que l'on ait un respect de l'identité de l'autre, qui n'est quand même pas la caractéristique foncière de nos civilisations, quelles qu'elles soient.
Oui, je pense qu'il y a une nécessité de respecter l'identité de l'autre. Mais pour moi, ce n'est pas le seul élément. C'est-à-dire, si quelqu'un ne respecte pas l'identité de l'autre, mais en même temps, il fait en sorte que l'autre soit un égal, c'est une chose que j'accepte. Je donne un exemple. Au XIXe siècle, il y a eu deux entreprises d'assimilation. Une entreprise d'assimilation qui touchait des populations un peu périphériques en France même. Probablement qu'il y a des cultures à l'intérieur du territoire français qui ont perdu quelque chose de leur spécificité, ils ont perdu leur langue, ils ont perdu... Et en même temps, ils ont gagné la citoyenneté pleine. Et ces hommes et ces femmes ne perdaient pas au change. En même temps, il y a eu dans les colonies, notamment en Algérie, pour prendre un exemple, une volonté à la fois d'assimilation et un refus d'assimilation. On voulait qu'ils se conforment et on ne voulait pas leur donner en même temps la citoyenneté pleine. Et je pense que cette relation avec l'autre a laissé des traces. Moi qui suis entre ces deux mondes, je regrette qu'on n'ait pas réussi à faire des sociétés véritablement intégrées, véritablement modernisées, véritablement plurielles. Je vis ce qui est arrivé en Algérie depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui comme un échec profond dont tout le monde a souffert, et en particulier les Algériens. Je ne me réconcilie pas avec l'idée du départ d'un million d'Européens qui aurait été un ferment extraordinaire pour l'Algérie.
Mais vous, ça veut dire que vous pensez, vous, que tout aurait pu se passer autrement, par exemple dans l'Empire français, alors que la plupart des gens disent que c'était inéluctable, donc ils ont condamné d'emblée la colonisation. Vous pensez que la colonisation aurait pu être autre chose ?
Vous savez, on arrive à un moment donné, puis on observe ce qu'il y a et on essaie de trouver des solutions. Si je pouvais refaire les choses en amont, moi je crois volontiers qu'on aurait pu diffuser la démocratie, les idées de laïcité dans le monde et avoir un monde qui soit véritablement intégré, qui soit véritablement basé sur un certain nombre de valeurs. On ne refait pas l'histoire. Ce n'est pas ainsi qu'on a gouverné l'Algérie, l'Indochine et le reste du monde. Je continue à penser qu'il y avait une autre voie.
Donc le rêve de Jules Ferry n'était pas un rêve inatteignable ?
C'est facile, je pense, de condamner aujourd'hui les rêves d'il y a 100 ans, disant, oui, regardez, il y a eu la colonisation. Je ne sais pas, la colonisation telle qu'elle a été pratiquée n'était pas une solution. La fin de la colonisation telle qu'elle a été pratiquée n'était pas une solution non plus. Je crois que ça, c'est le privilège du romancier. On peut imaginer des mondes différents. Moi, j'aurais parfaitement pu imaginer un monde où il y aurait eu partout dans le monde des pays qui étaient partiellement influencés par la France, par ses valeurs, par sa culture. Et en même temps, tout cela aurait été intégré à la culture locale, avec les langues locales. C'est une chose qui n'était pas impensable. Il y a des personnes, des individus qui y ont cru. Il y a des communautés comme celle à laquelle j'appartiens qui avaient intérêt certainement à ce qu'il y ait de ces synthèses entre diverses cultures. Mais le monde tel qu'il est aujourd'hui, il va évidemment dans une autre direction et il devient superflu de dire qu'il aurait pu en être autrement.
Mais autrement dit, il y aurait eu plus de lyotés, ça se serait passé autrement, quoi.
Plus de lyotés, plus de brazards. Voilà, je pense. Mais bon, toujours... On n'a pas la preuve, l'histoire est allée dans une autre direction, mais...
Écrivez un roman et voilà. On va découvrir cet univers tel qu'il aurait pu être. Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Amine Malouf, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Je pense qu'une des grandes hypocrisies de notre temps, c'est, je l'ai senti au début des années 90, au moment de la première guerre d'Irak. On voyait... les départs de missiles, les départs d'obus, les explosions, on les voyait de loin avec des éclairs. Et il est interdit de montrer les morts, il est interdit de montrer les sangs, la destruction. Et on estime que ce serait de la barbarie de montrer les conséquences des bombardements, mais que ce n'est pas de la barbarie de montrer les bombardements. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il faut que les gens... et notamment les jeunes, comprennent que ce n'est pas innocent, que ce n'est pas inoffensif, que quand on tire, quand on lance des obus, il y a des gens de l'autre côté qui peuvent mourir. Je pense que c'est symptomatique d'une certaine vision du monde que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas montrer la souffrance, mais on peut montrer tout ce qui peut provoquer la souffrance.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Amine Malouf, le plus d'espoir ?
Moi, je suis fasciné par l'évolution des sciences, notamment dans deux domaines et un troisième. Deux domaines qui sont l'informatique, qui a complètement changé notre vie, notre manière d'acquérir la connaissance. C'est une chance, un privilège de vivre à une ère comme la nôtre de ce point de vue-là. La médecine, évidemment, qui elle aussi a changé notre vie. Et j'ajouterai un domaine qui est à cheval sur les deux, sur à la fois la physiologie et l'électronique, qui est la connaissance du cerveau humain, de son fonctionnement, de ses potentialités. Et je pense que ce qui se fait dans ce domaine est fascinant et c'est probablement un des événements les plus extraordinaires depuis le début de l'aventure humaine.
Et en ce qui concerne l'informatique, toutes les inquiétudes concernant l'établissement de tissus artificiels entre les gens, le règne de l'immédiateté, par exemple, dans l'information et dans la connaissance.
Je ne suis pas un esprit chagrin.
Non, c'est ça.
Je suis fasciné par les possibilités que nous donne l'informatique aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps devant mes écrans. Je pense que, évidemment, comme toute technologie, comme toute... Tout instrument nouveau, il faut aussi savoir l'utiliser, il ne faut pas en être l'esclave, il faut un mode d'emploi. Et je sais qu'on n'a pas toujours le mode d'emploi, qu'il n'est pas facile de l'acquérir, surtout que les choses vont très vite, mais ce vertige me plaît.
Pour revenir au thème de vos trois principaux essais, celui du dialogue entre les civilisations, vous avez écrit que votre source d'espoir essentielle, c'était le comportement que pouvaient avoir les immigrés arabo-musulmans dans le monde occidental. Aujourd'hui, vous pensez la même chose ?
Non. Je pense que c'est une...
Une utopie ?
C'est une utopie, tout à fait honorable, tout à fait généreuse. J'aurais voulu qu'il en soit ainsi.
Oui.
Je n'ai pas le sentiment qu'on en prend le chemin.
Qu'est-ce qui a dérapé, alors ? Est-ce que vous écriviez ça dans les années 2009, par exemple ?
Déjà, en 2009, je pensais que c'était une chance. Je continue à penser qu'il faut essayer d'en faire une chance.
Mais
n'ai pas le sentiment que l'on va dans cette direction. Je crois que on va en Europe, on va vers une Europe où les mouvements de méfiance ou d'hostilité à l'égard des immigrés, à l'égard de l'autre, y compris l'autre européen, se renforcent. Nous sommes dans une Europe qui, au cours des dernières années, notamment dans les deux, trois dernières années, a un peu perdu le Nord. On ne sait plus exactement où va l'Europe. Cet immense rêve que je partage, pour moi, c'est un rêve merveilleux. Et moi, j'y adhère, non pas malgré mes origines, mais en raison de mes origines. Parce que j'ai grandi dans une région où les conflits sont permanents. Et le modèle européen, le modèle de tous ces pays qui se sont combattus pendant des siècles et qui se retrouvent et qui bâtissent quelque chose ensemble, c'est un modèle qui me fascine et j'y adhère entièrement. Et je pense qu'on est en train de le gaspiller. Je pense que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas un peu perdue. Ce désir d'union, ce désir de bâtir quelque chose ensemble, je pense qu'on assiste à l'émergence d'une Europe frileuse, qui n'a aucune confiance dans l'avenir, qui n'a même plus le désir d'Europe. Je pense que le sentiment d'appartenance à l'ensemble européen est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. Et donc, dans cette atmosphère, je crois qu'il est extrêmement difficile d'imaginer un rôle de trait d'union pour les gens qui viennent d'ailleurs. Je crois que ça restera pour moi un idéal, mais je suis beaucoup moins confiant.
Et dans ces conditions, les gens venant d'ailleurs peuvent être alors amenés et tentés de retourner vers leur identité première.
C'est malheureusement ce qui arrive et je le déplore profondément. Je pense qu'il y avait d'autres possibilités, mais bon, le monde ne va pas dans
ce sens-là.
Dans la direction que moi j'espérais. Et c'est une réalité, je vis avec, mais c'est une réalité que je déplore.
Mais quand vous disiez, nous devrions pouvoir faire percevoir aux uns et aux autres que nous avons une aventure humaine commune et que nous sommes des compagnons de route tous. C'est une utopie.
C'est ma conviction. C'est une utopie, mais c'est la mienne. Je pense que c'est même une condition de survie dans le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas bâtir un monde où chacun tire dans une direction. Je pense qu'on ne peut pas bâtir une Europe avec les idées qui circulent aujourd'hui. Mais
qu'est-ce qui peut amorcer la pompe ?
Je suis pas dans la politique active. Je suis un observateur et l'observateur que je suis. Bien obligé de constater que le monde va dans une autre direction et que l'Europe va dans une autre direction.
Vous êtes assez désabusé, là.
Je suis réaliste, j'observe. Je fais la différence entre ce que je souhaite et ce que je prévois. Ce que je souhaite, c'est véritablement des sociétés où on accepte la diversité, on sait gérer la diversité, parce que ce n'est jamais facile de gérer la diversité, où on sait comment transformer la diversité en richesse, parce qu'elle n'est pas seulement une richesse, c'est aussi une source de tension. Il faut savoir gérer la diversité de manière à ce qu'elle apporte une richesse à la société, en même temps, à diminuer les tensions. Et malheureusement, on n'est pas en train de faire cela. Ça, c'est la réalité.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Bon, vous avez peut-être déjà un petit peu répondu à ça, d'une certaine façon. Quel a été, Amin Maalouf, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ?
Les échecs personnels, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas importants. Je ne le dis pas parce que je suis au-dessus des échecs personnels, mais je le dis avec objectivité. Je pense qu'un échec peut être souvent la voie vers quelque chose de meilleur et un succès peut être le chemin de la malédiction. Et je pense que on ne peut jamais savoir si un événement que l'on a vécu va s'avérer positif ou négatif.
Et vous avez un exemple à nous donner d'échec dans votre vie qui ait été positif par ses conséquences ?
Oh, je peux vous donner un exemple qui... Un exemple qui s'impose là où nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, je me suis présenté à l'Académie française en 2004. J'ai subi un échec. Je ne dirais pas que j'étais heureux. j'étais ulcéré. J'ai été élu l'année dernière et je peux vous dire que le bonheur que j'ai eu l'année dernière fait que je sens que l'échec que j'ai subi 7 ans plus tôt était un prélude à un grand bonheur.
Une maturation, une préparation d'une maturation.
Mais ce que je voulais dire, c'est que mes échecs ne sont pas, je ne les vis pas sur le plan personnel, mais j'ai des échecs que je vis avec beaucoup d'amertume, mais ce sont des échecs plus vastes. C'est-à-dire, c'est l'échec de mes idéaux, c'est l'échec de beaucoup de choses auxquelles je croyais. Je voulais que le Liban devienne un exemple de modernité, de coexistence. Il n'en prend pas le chemin. Je voulais que le Proche-Orient puisse connaître une réconciliation à l'européenne et que tous ces peuples qui se sont combattus puissent se retrouver et bâtir quelque chose ensemble.
Oui, vous avez d'ailleurs écrit un papier très lyrique dans l'Express l'année dernière au mois de juin.
Oui, et ça n'en prend pas le chemin du président Obama,
un discours du Caire.
De temps à autre, je me dis mais c'est encore possible. Et puis patatras, je me rends compte que probablement que non seulement c'est difficile, mais je dois être un doux rêveur. Je n'ai pas le sentiment que l'on va vers une solution, vers une réconciliation. Et donc, les échecs que je ressens le plus, ce sont ceux-là.
Mais vous restez Sisyphe. Vous allez continuer à remonter votre rocher ou vous allez dire non, je passe la main et...
Non, je vais continuer parce que je ne sais pas faire autre chose. Je vais continuer, je ne vais pas changer de conviction. J'ai mes convictions et je reste persuadé que ce que je crois est ce que tout être raisonnable et tout être qui veut la survie de cette aventure humaine devrait croire. Mais bon, l'histoire ne va pas dans le sens que j'espérais.
Ce qui nous amène à la 7e et dernière question de notre série, donc L'Essentiel. Aujourd'hui, Amin Maalouf, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
J'ai envie d'écrire. J'ai des projets d'écriture, des romans, des essais, des pièces de théâtre.
Il y a un roman qui va sortir.
J'ai un roman qui va sortir dans quelques mois.
Chez Grasset, oui.
Oui, tout à fait. Et j'ai envie de pouvoir continuer le plus longtemps possible avec les mêmes illusions, avec les mêmes utopies. Mais je pense que je suis à un âge où j'ai envie de passer d'un livre à l'autre et de sentir qu'à chaque fois, j'arrive à trouver l'énergie pour écrire et pour réfléchir.
Alors, vous avez été élu donc à l'Académie française il y a pratiquement un an, c'était le 23 juin l'année dernière. Vous allez être reçu sous la coupole donc le 14 juin prochain, au moment où nous enregistrons cette émission, ça veut dire dans 15 jours, 3 semaines. Et comment vivez-vous l'entre-deux ? Vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans ? C'est facile, c'est difficile ? Vous êtes ailleurs comme vous l'avez été dans toute votre vie ?
Non, je ne suis pas ailleurs. Non, je le vis avec... Je peux vous dire que je passe l'essentiel de mon temps à réfléchir à ce que je dois dire, à ce que je dois faire. C'est une période étrange. Quand on est élu, on a l'impression que l'essentiel est fait. En réalité, il y a beaucoup de choses à faire pendant l'année qui suit. Il y a évidemment le discours, qui n'est pas la chose la plus simple. Un discours à l'Académie, c'est un genre littéraire à part entière. Et on n'est jamais sûr de devoir trouver le ton qu'il faut. Et puis, j'ai envie d'être, évidemment, que le discours soit à la hauteur de la responsabilité qui m'est confiée. Et aussi qu'il rende justice au personnage immense que j'ai le privilège
donc Claude Lévi-Strauss,
de remplacer.
Hein.
Claude Lévi-Strauss,
qui est l'air du fauteuil 29 avant vous.
C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, dont je connais les livres depuis les années d'université, puisque j'ai fait des études de sociologie, et donc j'ai étudié dans ses livres. Et c'est d'autant plus intimidant de
faire ça. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer à son sujet dont vous avez l'impression que ça n'a pas été dit ou en tous les cas pas suffisamment souligné? Est-ce qu'il y a quelque chose
sincèrement
qui vous paraît essentiel, l'essentiel de ce que vous aimeriez faire passer, quoi.
Un personnage de cette stature à qui l'on a déjà consacré des centaines de livres, je pense que ce serait prétentieux de vouloir dire une chose qui n'a jamais été
dit. Non, mais ce que vous aimeriez souligner, vous, comme si on avait une chose à retenir, l'essentiel de votre discours. Quelle est l'idée clé de ce discours ?
Je ne parlerai pas de mon discours, mais je pense que l'idée centrale qui était présente dans mon esprit quand j'ai écrit le discours, c'est que Lévi-Strauss est d'abord une boussole pour notre époque. Je pense que c'est une pensée subtile qui peut apparaître contradictoire quelquefois, qui a été attaquée par les uns et les autres à divers moments de sa vie, parce qu'il a observé le monde, qu'il a réellement réfléchi en toute indépendance aux solutions à apporter, notamment à des questions qui, pour moi, sont évidemment essentielles, comme la question de l'identité, des rapports entre les cultures, du rapport à l'autre.
Donc il y a une filiation, y compris dans le respect de la complexité des choses, quoi.
J'espère qu'il y a une filiation, et j'espère en tout cas être à la hauteur du personnage immense que je dois remplacer.
Alors, vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Louvain, donc Belgique, de Tarragone, Espagne, d'Évora, Portugal, l'Université américaine de Beyrouth. Vous allez être reçu à l'Académie française. Est-ce que vous ne craignez pas que le poids des honneurs que vous accorde l'Occident vous amène petit à petit à atténuer le côté critique de votre regard sur notre monde ?
Je pense que j'ai déjà pris des plis et que les choses ne vont plus changer. Je crois que ce que j'apprécie le plus dans ce métier, de ce métier d'écriture, c'est la liberté que cela donne. J'ai envie de dire ce que je pense, j'ai envie d'observer le monde avec indépendance, avec objectivité autant que possible. Les honneurs ne me grisent pas, sincèrement. Je ne dis pas que je suis insensible, je suis très sensible à toutes les belles choses qui m'arrivent, mais je n'oublie pas que la chose essentielle, c'est ce qu'on écrit, c'est l'œuvre. Je n'oublie pas que beaucoup de choses que l'on fait vont être oubliées, sinon tout. Je n'oublie pas que les honneurs qui arrivent à un moment donné dans la vie ne doivent pas faire oublier la futilité des choses.
Mais vous ne craignez pas d'être un peu, je vous dis, va peut-être vous choquer, mais de devenir un peu notre bonne conscience à nous, occidentaux, à peu de frais. Vous nous critiquez, vous nous faites voir ce qui ne va pas, et puis bon, non ? Vous ne ressentez pas ça comme un risque ? Je dirais d'être un peu sur le plan intellectuel des rapports entre l'Occident et le reste du monde, ce qu'une mère Teresa ou l'abbé Pierre pouvaient être dans les rapports sociaux. Donc, des gens qu'on salue, non, vous n'avez pas, vous ne ressentez pas ça comme un risque ?
Sincèrement, non. Je pense qu'on ne contrôle jamais l'usage que les uns et les autres vont faire de vous, de votre image. Mais en même temps, je pense qu'il faut simplement continuer à dire ce que l'on pense, continuer à critiquer ce que l'on considère comme critiquable. Il faut continuer à dire ce qui ne va pas dans le monde. C'est un peu, je dirais même que ma vision du monde est plus critique aujourd'hui et plus dure qu'elle ne l'était quand j'avais 30 ans. Donc je ne pense pas qu'avec les années et les honneurs, ce soit émoussé.
on peut compter sur vous pour rester notre poil à gratter intellectuel, quoi. C'est ça ? On peut le dire ?
J'espère.
Alors, depuis 20 ans, vous êtes très attaché à l'Île-Dieu. Est-ce que du Liban à l'Île-Dieu, il y a des continuités ?
Ce que je trouve à l'Île-Dieu, c'est la sérénité. Moi, j'ai besoin de sérénité. Ce qui est similaire, il y a peu de choses similaires, après tout, entre un pays en bord de Méditerranée...
Quelques arbres, quand même.
La dimension du village où je me trouve. Moi, je viens d'un tout petit village, et quand j'étais au Liban, l'endroit le plus merveilleux pour moi était ce petit village où il y avait peut-être 12 maisons, et où tout le monde se connaissait. Et j'ai besoin d'endroits où il y ait peu de maisons, peu de monde, où on puisse trouver la sérénité. Et je suis quelqu'un qui vit essentiellement pour écrire. Le reste, ce sont les fioritures autour, mais ma raison d'être, ma raison de vivre, mon activité quotidienne, c'est l'écriture. Et je suis toujours à la recherche du lieu où je peux écrire dans la sérénité, et l'Île-Dieu m'a offert cela.
Et ce n'est pas également une manière de vouloir arrêter le temps ? L'Île-Dieu, on a l'impression quand même que ça n'avance pas, que... pas au sens négatif du terme. Hein.
Si on pouvait arrêter le temps.
Ça n'est pas un peu ça, l'Île-Dieu ?
Ah.
Un petit peu, quand même.
C'est aussi un phénomène de l'âge. Je pense qu'il y a un moment dans la vie où on a besoin de parcourir le monde, de courir après les événements, d'être là où les choses se passent. Et puis, il y a d'autres moments où on a envie d'être à l'écart, d'observer avec un certain recul. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être à l'écart des hommes pour mieux aimer les hommes, pour moins les détester.
Heureux qui comme Ulysse, quoi, c'est ça. Quelle est l'image que vous aimeriez le plus que l'on garde de vous, après tous ces combats et avec tous ceux que vous allez encore engager ?
Je pense qu'il y a une image de moi qui est celle de quelqu'un qui voudrait réconcilier des cultures différentes, faire vivre ensemble des gens différents. Cette image, je m'y reconnais. En même temps, je pense qu'elle est entachée malheureusement d'une idée qui est de plus en plus présente, à savoir que tout cela, c'est une utopie, c'est des bons sentiments, c'est d'un optimisme béat. Et j'aimerais qu'un jour... les idéaux que je défends apparaissent moins absurdes, qu'ils apparaissent au contraire réalistes, nécessaires, crédibles, et que ce que je crois cesse d'être maltraité par l'histoire.
Ainsi s'achève cet essentiel dont l'invité était donc aujourd'hui Amin Malouf, l'un des apôtres les plus brillants et les plus convaincants d'une mondialisation positive, même si aujourd'hui il semble un tout petit peu désabusé quand même. Une mondialisation positive nourrie d'un humanisme qui serait à la fois universel et enraciné, on peut dire ça, non ? Bonne rêve. Et dont je rappelle que vous avez été élu à l'Académie française le 23 juin 2011, au fauteuil numéro 29, donc succédant ainsi à Claude Lévi-Strauss, qui est une lourde responsabilité. Vous serez reçu sous la coupole le 14 juin prochain. Amin Malouf, merci et bonne chance pour ce très grand jour. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.